Lorsque j'ai lu ce texte de l'Apocalypse, je me suis dit, un abîme me sépare de lui. Un abîme de 2000 ans. Je n'y comprenais rien. Et avec ce langage très imagé, très symbolique, mon esprit était complètement absorbé par les représentations que je me faisais de ces quatre êtres vivants, de cette foule en liesse, avec leur robe blanche, et de tous ces autres êtres fabuleux. Je voyais la scénographie, les palmes se soulever, les visages contre terre devant le trône, avec cet agneau dont on dirait qu'il a été égorgé. Alors je me suis dit stop. Si je continue à rester fascinée par tous ces apparats, je n'arriverai jamais à comprendre le sens de ce texte. Et surtout, chose principale pour moi, à vous transmettre quelque chose qui puisse vous nourrir dans votre vie, dans votre foi, dans votre spiritualité. Et comme j'aime les défis, j'ai choisi ce chapitre de l'Apocalypse parce que cela fait longtemps que j'avais envie de m'y pencher, mais que je n'avais jamais vraiment osé franchir ce pas, par peur et par doute. Donc ce matin, pour moi, le défi est le suivant. Que puis-je extraire de ce bout, de ce morceau d'Apocalypse qui vous donnerait envie à vous aussi d'y mettre le nez dedans ? Suivons d'abord la piste du contexte historique pour nous aider à y voir plus clair. Nous sommes au premier siècle de l'ère chrétienne et ces communautés ont réellement besoin d'un réconfort et d'un soutien pour soutenir leur foi. L'invasion romaine, les guerres maccabéennes ont épuisé le peuple juif et encore davantage les plus fragiles, qui sont les chrétiens. L'Apocalypse de Jean, ou dit de Jean, utilise des termes cachés, des visions énigmatiques, pour parler à ces chrétiens qui sont souvent également, comme on le dirait dans le langage d'aujourd'hui, aussi des planqués. Soit ils sont complètement cachés. Ils sont planqués parce qu'ils sont persécutés et par les Juifs et par les Romains et ils se font discrets. Ils sont éparpillés sur une géographie très vaste, partant d'Israël, passant par la Syrie, la Turquie et continuant en Grèce. Dans l'Apocalypse, ce qui est également étonnant, c'est ce rappel constant à la symbolique de l'Ancien Testament. Et cela nous rafraîchit constamment la mémoire par des allers-retours à nos connaissances bibliques d'avant les évangiles. Concernant ce chapitre 7, versets 9 à 17, ce qui pour moi est révélateur, c'est cette foule immense et la description de cette foule, de toute tribu, de toute langue, de toute nation et de tout peuple, une assemblée sans frontières, sans barrières de langue, sans barrières de culture ou de classe sociale, et se tenant devant le trône de l'agneau, devant cet innocent, ce tout fragile, ce nouveau-né, celui qui est né à nouveau. Dans un monde où les classes sociales, les religions ne se côtoient pas, ou pas comme ça du moins, je suis touchée par la force d'un christianisme qui confesse d'une seule voix, dans toute sa diversité. Le salut, nous le devons à notre Dieu et à l'agneau, c'est-à-dire à Jésus. Me mettant à la place d'une chrétienne de ce premier siècle, j'ai l'audace de penser que grand aurait été mon réconfort, sachant que malgré les persécutions, la faim, la soif, la chaleur torride et brûlante, malgré tout cela, je serai protégée par l'agneau qui un jour me conduira aux sources d'eau vive et essuiera toutes mes larmes. Toutes ces larmes que j'aurai versées pour avoir fait le choix de devenir chrétien, chrétienne, et de vivre dans la persécution et la peur. Mais l'agneau, devenu berger, devenu agneau, est toujours là pour nous guider, malgré nos doutes et nos désillusions, malgré nos tristesses, et malgré que nous soyons maintenant 2000 ans après cela. Vers des sources d'eau vive, et comme le dit le texte, dans un élan de réconfort sublime et fou à la fois, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, toutes larmes de nos yeux. Amen. Ça, c'est mieux. Comme ça, on entend mieux. Je vous invite à une confession de foi du pasteur André Ferayen. Je ressens ma vie et l'univers qui m'entoure comme un don. Je rends grâce à la source de la vie, à la source de la vérité, de la beauté et de l'amour. Cela me convient bien de l'appeler Dieu. Je me réjouis de tous ceux et de toutes celles qui ont contribué et contribuent encore à édifier ce monde plus humain, plus juste et plus fraternel, qu'avec la Bible, j'appelle volontiers le royaume de Dieu. J'admire particulièrement Jésus de Nazareth, tellement habité par l'Esprit de Dieu, qu'avec ses disciples les plus enthousiastes, je l'appelle volontiers Fils de Dieu. J'aime la communauté universelle des disciples de Dieu et de Jésus. C'est pourquoi je travaille volontiers à dissiper les ambiguïtés institutionnelles et dogmatiques qui empêchent mes contemporains de découvrir la richesse du message de Jésus avant le christianisme. Je crois que la liberté de la pensée chrétienne est un gage de réussite pour un œcuménisme sans frontières et pour tisser des liens avec les autres religions. Amen. Et je vous invite aussi à la prière d'intercession. Seigneur, nous aimerions être dignes de toi et nous présenter parmi la foule immense qui se tiendra devant ton trône. Nous attendons que tu viennes pour essuyer nos larmes, mais nous n'avons aujourd'hui pas d'autre main que nos mains pour les essuyer et essuyer les larmes de nos proches et de ceux que nous aimons. Donne-nous assez d'humanité pour prendre soin de ceux qui nous entourent et assez de générosité pour offrir sans gêne notre affection à nos enfants et aux enfants qui la recherchent. Sois avec nous pour les guider vers un chemin de vie et d'espérance qui leur permettra de se sentir confiants. Sois avec nous pour guider ces jeunes adultes aussi, pour se construire sans dogme et idéologie extrémiste. Amen.